Je vais essayer dans les quelques minutes qui vont suivre de vous faire une présentation de la Suisse sous certains aspects, parce qu'il est bien difficile de parler un peu plus complètement dans ce laps de temps de tout un pays et de ses institutions. Le baron de Coubertin disait « La Suisse est un monde, sans les cantons elle ne serait qu'un petit pays ». Il y a là une vérité, me semble-t-il, qu'il s'agit de mieux percevoir à travers peut-être ce que j'appellerais l'album de famille. Il est d'usage, quand on se rencontre quelquefois, de se montrer l'album de famille, Alfred 2 ans, Henri 8 ans, etc. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la coqueluche, de la première dent ou de la première chute, mais néanmoins, je vais faire un rapide cursus, si on peut dire, de l'histoire de notre pays. 1291, trois communautés, elles ne portaient pas encore le titre de canton, Uri, Schwyz et Unterwald, éprouvent le besoin, à la faveur d'ailleurs du grand interrègne, d'unir leurs forces pour se défendre plus particulièrement contre des grandes maisons comme celle des Habsbourg, plus essentiellement pour pouvoir demeurer ce qu'elles ont été jusque-là avec leurs droits, leur tradition. C'est pourquoi nous fêtons la fête nationale au 1er août, parce que c'est au 1er août que l'on situe le serment qui a été passé par les chefs de ces diverses communautés et qui ont rédigé ce pacte d'alliance par écrit, rédigé d'ailleurs en latin, et qu'on a retrouvé au XVIIIe siècle seulement. De sorte que ce qu'on avait de l'histoire suisse jusqu'à cette époque, jusqu'à la découverte de ce pacte écrit, reposait essentiellement sur la tradition, si on peut dire. Et s'il y a quelquefois des hiatus entre certains historiens, cela tient aux interprétations diverses qu'ils peuvent faire entre les traditions et précisément ces pactes écrits. Je saute de 1332 à 1353. Nous trouvons successivement cinq cantons, comme nous les appelons aujourd'hui, qui entrent dans l'Alliance. L'Alliance qui est un pacte, qui est basé essentiellement sur le serment. C'est d'ailleurs dans le mot de confédération, il y a précisément le mot feudus, qui est le serment en latin. Et nous trouvons ainsi, à partir de 1353, ce que l'on appelle la confédération des huit cantons. Elle va durer, cette confédération, jusqu'en 1481. À la diète qu'on appelle de Stans. Ces huit cantons ont des alliés, le Valais dans sa partie supérieure, dans sa partie allemande, au-delà de Sion, est un des alliés de cette confédération des huit cantons, et cette confédération a également des pays sujets, mais c'est quelque chose tout à fait reçu en droit au Moyen-Âge. Immédiatement, ils vont finalement en découdre de façon décisive avec les Habsbourg, à travers les batailles de 1386 et c'est Saint-Pach, et de 1388 et c'est Neffels. Et en 1393, elles vont renouveler solennellement l'alliance première et adopter particulièrement ce que l'on appelle le convenant de Stans, qui restera en vigueur jusqu'à la Révolution française en 1798. Et dans ce convenant sont notamment préciser, définir les obligations militaires que les cantons se devaient réciproquement. Autrement dit, cette confédération des huit cantons va former pendant 120 ans, et finalement jusqu'à Marignan en 1515, la plus grande puissance militaire d'Europe, parce qu'elle est capable de lever à tout moment une armée de 80 000 hommes, ce qui était à ce moment-là une armée très forte, est pratiquement la plus forte d'Europe si l'on accepte des coalitions possibles. Mais l'on doit dire aussitôt que si cette force, qui s'exercera notamment contre Charles le Téméraire et contre ensuite, à travers les guerres de Souabe, le Saint-Empire romain germanique, si cette force n'a pas abouti à la création d'un État plus grand, plus puissant, en dépit de la visée, si l'on peut dire, de certains confédérés, plus particulièrement Adrien de Bubenberg, le défenseur de Morat, mais surtout le cardinal Mathieu Schindre, qui est valaisan, Si donc cette force réelle n'a pas abouti à la création d'un État, c'est en raison de l'absence d'un chef qui aurait pu coordonner une politique commune. Or, les cantons étaient des alliés, mais des alliés qui voulaient demeurer ce qu'ils étaient. Ils entendaient demeurer souverains et étaient d'une extrême jalousie pour tout ce qui concernait précisément cette souveraineté. De sorte qu'ils n'auraient pas toléré, il y aurait eu des chefs qui auraient eu la qualité et l'envergure pour pratiquer cette politique qu'un Mathieu Schindre, pendant quelques années, pourra pratiquer. Il y avait des chefs de cette envergure, mais il n'y avait pas la possibilité à ce moment-là qu'un chef puisse exercer son pouvoir en raison de la souveraineté qu'entendait conserver chacun pour soi, chacun des 8 cantons qui formaient l'alliance dans cette confédération. On le verra d'ailleurs même à Marignan, où, si on regarde ce qui s'est effectivement passé, François Ier prend contact avec les confédérés dans le dessein d'éviter la bataille, et une partie des confédérés, 10 000 hommes plus exactement, venus de l'Est de la Suisse, accepteront de passer traité, et ayant passé traité, se désintéresseront de ce qu'il adviendra du sort des autres confédérés et rentrent purement et simplement chez eux. Bien sûr que ces 8 cantons avaient un sentiment certain de solidarité, particulièrement à l'égard des puissances étrangères, mais aucun patriotisme commun, si l'on veut dire patriotisme dans le sens d'être suisse. C'étaient des alliés que donc des accords pouvaient séparer, et plus que des accords, quelquefois même des conflits. Mais la Confédération des 8 cantons, donc, s'étend jusqu'en 1481, et c'est là qu'elle faillit sombrer une première fois, en raison tout d'abord des victoires contre Charles le Téméraire, des butins immenses qui avaient été saisis, mais surtout de la rivalité qui s'était déjà fait jour au travers des décennies précédentes entre les cantons-villes et les cantons-campagnes, comme on les appelle, supportant mal une prépotence des cantons-villes. Et c'est Saint-Nicolas de Flux qui, alors même que tout semblait désespéré, peut-on dire par une intervention quasiment miraculeuse, réussit à ressouder, si on peut dire, les Suisses entre eux et mérite à cet égard le titre de père de la patrie. 1481 voit d'ailleurs l'entrée de 2 cantons dans la Confédération, ce sont Soleure et Fribourg, et jusqu'en 1513, 3 autres cantons vont encore adhérer à l'alliance Bâle, Chaffouze et Appenzell. Et c'est cette confédération des 13 cantons qui va persister jusqu'en 1798 avec toujours des alliés, notamment le Valais, et des pays sujets. Et le Bas-Valais, à cet égard, est un pays sujet non pas directement des 13 cantons, mais du Haut-Valais, puisqu'il a été conquis sur la Savoie lors des fameuses batailles de la Plantade de 1475. 1798, c'est l'invasion française. Un auteur, un historien, William Martin, ajoute aux différentes causes qui ont permis, si on peut dire, à la Suisse de s'effondrer à ce moment-là, et qui tenait notamment aux divisions intérieures, ajoute une cause qui est certainement relevée, c'est que, dit-il, si l'attaque était venue d'Autriche, qui était en quelque sorte ressentie comme l'ennemi héréditaire, ce fait d'une attaque venant de l'Autriche aurait soudé, peut-on dire, presque instantanément les Suisses, au moins le temps de faire front à l'attaque, tandis que l'invasion française les laissait en quelque sorte, d'une certaine façon, démunis, en raison précisément du fait que depuis 1516, une alliance avait constamment été passée entre les États, alliance en vertu de laquelle les cantons suisses, les louables cantons, comme on les appelle dans les traités, permettaient au roi de France précisément de disposer, de recruter chez lui officiers et soldats. Je vous cite simplement un chiffre, François Ier aura sous ses ordres 163 000 Suisses, et si l'on fait le bilan du service étranger, comme on l'appelle, au service de France, de 1516 à 1830, date à laquelle Charles X délie les Suisses de leur serment, nous avons 1 million de Suisses qui ont servi en France, et sur ces 1 600 000 morts, on peut dire que, à travers le service militaire étranger, les Suisses ont été, sous la conduite du roi de France, ont participé à toutes les batailles qui ont été livrées en Europe, et bien au-delà de l'Europe, parce qu'un autre 1 million de Suisses sera, lui, au service pendant cette même période, soit du Saint-Siège, soit de l'Autriche, soit de l'Espagne, et après la réforme de la Prusse, de la Suède ou de l'Angleterre. Il y a même eu des Suisses à Lépante et deux drapeaux pris par les Suisses aux Turcs lors de la bataille de Lépante se trouvent au musée de Lucerne et nous pouvons avoir une certaine certitude que cela ne sera pas rendu. Mais ils étaient aussi en Vendée puisque, je cite simplement un trait, c'était des membres qui faisaient partie du régiment suisse des gardes. Et lors des journées du 10 août 1792, ils ne se trouvent pas à Paris parce qu'ils ont été détachés en Normandie pour accompagner un convoi d'argent. Ils apprennent en Normandie ce qu'il est advenu de leurs camarades, puisqu'il y a eu 600 morts parmi les gardes suisses lors de l'attaque des Tuileries. Ils reviendront en Suisse, mais désireux de venger leurs camarades, 120 d'entre eux partiront pour faire la guerre de Vendée, et les 120 mourront à Cholet et dans les différentes batailles que les Vendéens ont soutenues, et nous trouvons dans les mémoires de Madame Laroche-Jacquelin les louanges au sujet de ces 120 Suisses qui se battaient, disait-elle, comme des lions. Donc, invasion française en 1798, et à ce moment-là, les armées du directoire imposent ce que l'on appelle la République helvétique, qui va durer d'ailleurs 5 ans, qui est un État unitaire, imposé par l'occupant, qui aura d'ailleurs 6 constitutions successives pendant 5 ans, et qui connaîtra constamment des agitations. Des agitations qui inquiètent celui qui, à ce moment-là, monte en France, et qui s'appelle d'abord Premier Consul pour s'appeler ensuite Napoléon, et qui imposera en 1803 l'acte de médiation. C'est une partie de notre histoire qui est connue sous ce titre et qui s'étend de 1803 à 1813. L'acte de médiation est promulgué par Napoléon, d'ailleurs, à Paris, le 19 février 1803, sous la forme d'une loi française. Ayant constaté les raisons de l'échec de la République helvétique, qui avait voulu faire un État unitaire, alors que la tradition de 5 siècles était précisément celle que je vous ai décrite, de canton souverain, il comprend quelle est l'originalité du système suisse et, dans l'acte de médiation, restaure les anciens cantons, leur rend, avec la souveraineté absolue, entre guillemets quand même, leurs institutions traditionnelles, et élève au rang de canton les pays qui étaient jusqu'alors sujets. Et c'est de cette date que datent, dans leurs frontières actuelles, les cantons de Vaud, d'Argovie, de Turgovie, de Saint-Gall et du Tessin. Mais la politique de Napoléon vis-à-vis de la Suisse se résume quand même dans cette phrase qu'il a prononcée le 25 avril 1809, parlant de la neutralité de la Suisse. « La neutralité vis-à-vis de moi, dit-il, est un mot vide de sens qui ne vous est utile qu'autant que je le veux. » Le Valais, au travers de ses péripéties, que devient-il? Le 25 février 1801, le premier consul qui a un regard sur l'Italie avait exigé la cession du Valais car il voulait s'assurer le passage des Alpes. Et dès le 8 octobre 1800, d'ailleurs, il avait commandé la construction d'une route militaire et il avait fait accomplir ses travaux dès décembre par les autorités, malgré les protestations des autorités valaisannes, par les troupes du général Thurot. Et cette route que l'on appelle la route Napoléon, elle passe exactement au nord de la chapelle. C'est la route qui longe tout le coteau et qui relie Ried à tous les villages qui sont ici sur le bord. Elle passe donc à travers les vignes, entre le rouge et le blanc, là, des vignes. Elle longe au nord la chapelle et continue ensuite sur Ried dans ce chemin que vous connaissez sans doute. C'est la route Napoléon qui a été construite en son temps, dès 1800, par les troupes du général Thurot. En mai 1801, le gouvernement helvétique, sur la pression, bien sûr, de Napoléon, cède le Valais contre une garantie donnée par le premier consul d'une nouvelle constitution que les Suisses s'étaient donnée. Alors, Napoléon n'apprécie pas, il trouve d'ailleurs cette constitution absurde, il la modifie de son propre chef. Le gouvernement helvétique, à ce moment-là, manifeste un sursaut d'indépendance et proclame le 28 septembre 1801 l'intégrité de la République helvétique, mais ce ne sont que des mots qui ne peuvent être appuyés sur une force. Et Napoléon, qui considère cette réponse comme une provocation, renverse ou fait renverser en 1801, le 28 octobre, le gouvernement suisse. Et en novembre 1801, le Valais est occupé par une armée française et traité purement et simplement en pays conquis. Devant cet état de fait, le nouveau gouvernement suisse cherche appui auprès des puissances. Ceci est immédiatement rapporté à Napoléon, qui en tire les conséquences qui voient le 17 avril 1802, un nouveau coup d'État, le cinquième d'ailleurs, renverser le gouvernement. Et le 16 mai 1802, il proclame, Napoléon, l'indépendance du Valais. Et le 27 juillet suivant, après des tractations, le nouveau gouvernement helvétique, le sixième donc, signe l'abandon du Valais, qui est érigé en république indépendante sous un triple protectorat, le protectorat commun de la République française, de la République cisalpine et de la République helvétique, en résumé, trois fois le protectorat de la France. La paix de Vienne du 15 octobre 1809 donne à Napoléon le titre de médiateur de la Suisse, qui est la reconnaissance officielle de sa suzeraineté sur notre pays. En vertu de quoi, le 12 novembre 1810, la République indépendante du Valais est abolie et le Valais incorporé à l'Empire sous le nom de département du Simplon. Vous vivez, messieurs, dans ce qui fut pendant quelques années le département du Simplon. Ce fut ensuite la chute de Napoléon. L'acte de médiation est aboli en 1813, décembre, puis le congrès de Vienne, qui restitue à la Suisse les cantons de Valais, de Neuchâtel et de Genève. Et ceci, cette année, 1815, marque précisément l'entrée de ces trois cantons dans la Confédération suisse. Cela a donné lieu à un vote populaire en Valais. Et l'adhésion à la Suisse fut acceptée par une très légère majorité. Il ne semble pas que depuis lors la chaleur ait été excessive du Valais à l'égard de la Suisse, bien que nous nous considérions véritablement comme Suisses. Ensuite, 1845 voit le Sonderbund. Sonderbund, c'est deux mots allemands qui veut dire alliance particulière. Sonder particulier, Bund, c'est l'alliance, le Sonderbund. Le Sonderbund, c'est une alliance des cantons catholiques, parce qu'il y a eu la réforme qui a failli, et c'était le deuxième accident, je ne vous en ai pas parlé, qui a failli rompre l'unité suisse et perdre, on peut dire, purement et simplement, la Suisse, dont la partie allemande, la partie française et la partie italienne auraient rejoint leur pays limitrophe de civilisation et de culture identique. Le Sonderbund voit donc ce que l'on appelle la Suisse primitive, entendu dans un sens correct, donc Uri, Schwyz et Unterwald, et les trois autres cantons de Lucerne, Fribourg et Valais, constituer cette alliance particulière pour se défendre en tant que catholique contre une certaine hégémonie, et plus qu'une hégémonie, des vexations et une volonté de puissance protestante. Ceci aboutit en 1847 aux guerres du Sonderbund, où les cantons catholiques sont défaits, mais heureusement, grâce à la perspicacité du général Dufour, qui commandait les troupes qui se battait contre le Sonderbund, la victoire ne fut pas exploitée et ce que l'on chercha bien davantage, ce fut de rétablir une véritable paix et une concorde. Tout ceci aboutit en 1848 à une constitution fédérale qui, cette fois-ci, et pour la première fois dans l'histoire suisse, crée, à côté des cantons, crée un État fédéral avec un gouvernement central. C'est donc depuis 140 ans seulement, en chiffres ronds, que nous avons un État fédéral. Auparavant, nous n'avions que des États cantonaux. Cette constitution est marquée par un radicalisme assez fort, teinture très nettement anticléricale. Nous appelons d'ailleurs ces gens-là des 48 heures. Il en reste encore. En 1874, la Constitution est modifiée assez profondément. C'est celle qui nous régit encore aujourd'hui, avec toutes les modifications, adjonctions, suppressions qui ont été faites pendant plus d'un siècle. Cette Constitution de 1874 introduit notamment le référendum, on pourra en parler brièvement tout à l'heure, et c'est en 1891 qu'est introduit l'initiative populaire en matière constitutionnelle. Et avant de fermer la dernière page de l'album, je signalerai simplement que le 23 juin 1974 voit se créer un 23e canton, qui est le canton du Jura par la séparation de la partie française du canton de Berne, d'une partie de la partie française. Si j'ai voulu faire ce rappel très bref de l'histoire de la Suisse, c'est pour bien montrer que la spécificité, l'originalité, si l'on peut dire, de nos institutions politiques tient au fait que les cantons sont une réalité première dans l'histoire suisse. Ces cantons qui, pour leur défense commune et pour pouvoir conserver leur identité, se sont unis, comme je l'ai dit, par un pacte qui est un serment. Et cette alliance entre cantons sans pouvoir central a subsisté pendant 5 siècles, autant que l'Empire romain, peut-on faire remarquer. Mais il faut bien dire que cette absence de pouvoir central, dont j'ai esquissé les défauts en parlant de l'absence d'une politique commune, amena finalement leur ruine lorsque, précisément, en 1798, ils seront attaqués par des puissances extérieures. Comme le dit Gonzague de Reynold, il aurait fallu, sous l'ancienne Suisse, qu'un toit abrita la construction. Cette absence de toit a causé des ravages dans toutes les parties de la construction, mais elle a pu être remise d'une certaine façon en place avec un toit, et ce fut l'œuvre des constituants de 1848 puis de 1874. Mais il est bien évident que c'était aussi introduire par ce fait même un principe de contradiction. C'est-à-dire que en instituant un pouvoir central, il allait advenir que ce pouvoir central, sous la poussée d'idéologies diverses, allait chercher précisément à centraliser et à enlever aux cantons de plus en plus de souveraineté. Et l'on peut dire que c'est depuis lors cette bataille qui se poursuit entre ce que l'on appelle les fédéralistes et les centralisateurs. Le fédéralisme chez nous, c'est précisément cette doctrine politique qui veut que l'on conserve aux cantons leur plein caractère d'État, avec le maximum possible compatible avec l'alliance de souveraineté, alors que la centralisation ou l'esprit centralisateur, qui fut notamment le fait des partis radicaux et plus spécialement aussi du Parti socialiste, vise précisément à conférer au pouvoir central le maximum de compétences, et ce sont bien sûr autant de compétences qui sont enlevées aux cantons, qui auraient tendance ainsi à ne devenir d'État qu'ils étaient, souverains, que des circonscriptions administratives. Et après avoir donné cet album de famille, parlant des vivants, si l'on peut dire, je veux dire par là, parlant de la texture politique en Suisse, quand un Suisse vous parle de l'État, au travers de sa conversation, il ne s'agit jamais du pouvoir central. L'État, c'est le canton. Je suis en bagarre avec l'État, ou j'ai fait recours à l'État, ou l'État fait ceci ou fait cela, c'est toujours l'État cantonal. Quand on veut parler de la Confédération, on dira Berne. C'est Berne. Sans oublier qu'il y a une fosse aux ours. D'ailleurs, si vous voulez demander la nationalité suisse, il n'y a pas de nationalité accordée par le pouvoir central. Il n'existe pas. On devient automatiquement suisse en acquérant un droit de bourgeoisie dans un canton. Par ce fait même, on devient suisse. Mais il n'y a pas d'acte par lequel le pouvoir central conférerait la nationalité suisse. Et les cantons ont bien une réalité, c'est qu'ils peuvent d'abord, dans les limites définies par le droit, passer des concordats entre eux, et ils peuvent même aussi, dans des limites aussi définies par le droit, traiter avec des États étrangers. C'est simplement un petit incident, il s'agit actuellement de régler les contraventions de pêche sur le lac Léman, et doit m'occuper d'une convention qui est à passer entre la France, le canton de Genève, le canton de Vaud et le canton du Valais. Mais la Suisse, la Confédération en tant que telle, n'intervient pas dans ce domaine-là. Je ne sais pas si c'est à cause de la pollution ou autre, mais enfin, n'intervient pas. Vous trouvez d'ailleurs ceci dans la Constitution dont je me permets de vous lire l'article 1 et 3, et le préambule tout d'abord. Le préambule, c'est « Au nom du Dieu Tout-Puissant », c'est ainsi que commençaient tous les pactes qui ont été passés depuis 1291. « Au nom donc du Dieu Tout-Puissant, la Confédération suisse voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, a adopté la Constitution suivante. » Article 1. « Les peuples des 23 cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir, suivent le nom des 23 cantons suisses, forment dans leur ensemble la Confédération. » Et l'article 3, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et, comme telle, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. Et quand je vous parlais de la lutte qui sépare aujourd'hui comme hier les fédéralistes décentralisateurs, un projet de révision totale de la Constitution était en cours, dont l'élément moteur était notre conseiller fédéral démocrate chrétien Fourglaire, qui heureusement a passé depuis lors à un autre département, et qui avait sous son égide mis une commission d'experts à l'œuvre et qui nous avait traduit une espèce de chef-d'œuvre, heureusement semble-t-il oublié, et qui définissait à l'article 1, la Suisse est un État fédératif, démocratique, libéral et social. La Confédération se compose de, et le renversement, avant, aujourd'hui, c'est les peuples des 23 cantons souverains de la Suisse forment la Confédération, et dans la nouvelle rédaction, la Suisse est un État fédératif qui se compose des cantons, c'est le renversement exact de toute la tendance de notre histoire. Alors, comment s'articule le pouvoir en Suisse? J'ai voulu vous montrer, parce que ça me semble être la clé de la compréhension de la politique suisse, l'existence de ces deux pouvoirs, le pouvoir cantonal et le pouvoir de la Confédération. Je peux vous parler de la Confédération dans ses différents organes, pour vous donner une image, si on peut dire, de l'organisation politique, et puis nous viendrons ensuite au canton. Au niveau de la Confédération, il y a donc, bien sûr, comme dans toute société aujourd'hui, un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir exécutif est ce qu'on appelle le Conseil fédéral. Dès qu'il s'agit de la Confédération, il y a toujours l'adjectif fédéral, tribunal fédéral, Conseil fédéral, Chambre fédérale, loi fédérale, etc. Qui est composé donc, ce Conseil fédéral, de 7 conseillers fédéraux nommés par les chambres fédérales pour 4 ans. Un caractère d'ailleurs de toute notre politique, c'est la stabilité des autorités en place. Ça compense, si on peut dire, certains effets d'une certaine démocratie. et vous pouvez le constater, c'est qu'en 140 ans, il y a eu un seul cas au Conseil fédéral de non-réélection. C'est-à-dire pratiquement quelqu'un qui est conseiller fédéral et qui veut remettre, comme on dit élégamment, son mandat à disposition, eh bien, est réélu par les chambres qui peuvent simplement, peut-être par un vote un peu moins ample, manifester, comme elles le font d'ailleurs chaque 4 ans, la satisfaction plus ou moins grande qu'elles éprouvent à l'égard de tel ou tel conseiller fédéral. Donc un seul cas de non-réélection. Et autrement, tous ceux qui ont été conseillers fédéraux ont été réélus aussi longtemps qu'ils l'ont voulu. Et nous avons plusieurs exemples de conseillers fédéraux qui sont restés en place, deux en tous les cas, dont un que j'ai connu, plus de 30 ans, 34 ans. Et la moyenne d'âge, je veux dire la moyenne de durée d'exercice, est à peu près de 10 à 12 ans d'exercice du mandat de conseiller fédéral. La présidence de la Confédération, c'est un primus inter pares qui est désigné par un turnus. Le turnus, c'est selon sa date d'élection et chacun accède successivement à la vice-présidence, puis à la présidence, puis repasse au fond de la ligne d'attente et recommence la chaîne, de sorte qu'il peut arriver à être 2, 3 fois ou 4 fois président de la Confédération. Il lui appartient de représenter officiellement la Confédération lorsqu'elle doit être représentée officiellement, mais il conserve ce qu'on appelle son département, c'est-à-dire son ministère, qu'il assume en même temps que la présidence de la Confédération. Ceci pour l'exécutif. Le législatif est composé de 2 chambres. Cela a d'ailleurs été fait un peu sur le modèle américain, lui-même imité du modèle français. Je ne dis pas que c'est un cercle vicieux, mais enfin ça y ressemble un peu. Le Conseil national, tout d'abord, est le Conseil des États. Le Conseil national est composé de 200 membres. On l'appelle la Chambre basse, mais par une de ces aimables contradictions que permet la démocratie, c'est le président de cette Chambre basse qui est le plus haut magistrat du pays, le premier magistrat du pays. Ces conseillers nationaux sont élus au système proportionnel. Mais auparavant, on a attribué à chaque canton, en fonction de sa population, le nombre de conseillers nationaux auxquels il avait droit. Alors vous avez des cantons qui sont assez petits, qui ont droit à 1, ça c'est toujours le minimum, 2 conseillers nationaux. Le Valais a droit à 7 conseillers nationaux, et le canton de Zurich ou de Berne arrive avec des cortèges de plus de 40 conseillers nationaux. Puisqu'actuellement, un Suisse sur 5 est Zurichois. Donc, élu au système proportionnel, le Conseil des États, lui, qu'on appelle la Chambre haute, est composé de représentants des cantons. Autrement dit, il y a au Conseil des États 46 députés, c'est-à-dire 2 par canton, quelle que soit l'importance du canton. Le canton de Glaris a autant de représentants que le canton de Zurich, et ceci, d'une certaine mesure, compense les désavantages que pourrait avoir la seule représentation proportionnelle où le poids des populations de certains cantons serait excessif face aux autres cantons. Comment sont-ils élus? Ils sont élus selon les lois cantonales. Donc il n'y a pas de loi fédérale dans ce domaine-là. Ils sont élus en général au système majoritaire. Dans certains cantons, ils peuvent être désignés directement par le Grand Conseil, mais c'est la législation cantonale qui détermine le mode d'élection de ces délégués au Conseil des États, à la Chambre haute. Comment se passe la délibération? Lorsque une loi est adoptée au plan fédéral, eh bien, il y a, comme vous l'avez en France, entre le Sénat et le Parlement, une navette. Alors chaque chambre examine à 2 reprises le projet tel qu'issu de l'autre chambre, avec les amendements de l'autre chambre. Elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord, mais à la différence du système français, il n'y a pas une chambre qui a la prépotence sur l'autre. Autrement dit, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, tout simplement, il n'y a pas de loi. Il faudrait que leur désaccord soit plus fréquent, on serait moins encombré de textes législatifs. Tandis qu'en France, le Parlement, finalement, l'emporte, et le Sénat peut mener une guerre d'obstruction, mais ne peut pas s'opposer finalement à un projet de loi qui est décidé par le gouvernement et quelquefois par le président de la République. À côté donc de ces deux pouvoirs législatifs et exécutifs, un pouvoir judiciaire, le tribunal fédéral, qui comporte également un tribunal fédéral des assurances, l'un siégeant à Lausanne et l'autre à Lucerne. Le tribunal fédéral a ceci de particulier, c'est qu'il n'est pas juge de ce qu'on appelle le fait, il est juge du droit uniquement. Pour schématiser les choses, si par exemple un tribunal cantonal dit « c'est blanc », il n'est pas dans le pouvoir du tribunal fédéral de dire « c'est noir ou c'est gris ». Il doit simplement partir de l'état de fait qui a été arrêté par le juge qui est plus proche, si on peut dire, du contribuable ou des parties, et cet état de fait étant retenu, il doit dire si les conclusions juridiques qu'il en a tirées sont conformes ou non à la législation fédérale. Les droits populaires au niveau suisse, l'initiative populaire possible en matière constitutionnelle, il faut recueillir 100 000 signatures. On peut ou bien la rédiger de toutes pièces ou bien la concevoir en termes généraux. Mais de toute manière, lorsque l'initiative qui doit être soumise au peuple vient devant le peuple, nous avons toujours un texte très précis et jamais des principes simplement, mais un texte précis qui est accepté ou qui est refusé. Et nous avons également le référendum. Le référendum, c'est une vieille institution suisse. Quand il n'y avait pas de pouvoir central, il y avait quand même des assemblées, qu'on en appelle des diètes, au cours desquelles se rencontraient des délégués des différents cantons. Ils n'avaient pas de pouvoir de décision, ou ils n'avaient des pouvoirs de décision qu'ad référendum, c'est-à-dire ils devaient s'en référer à leur mandataire, et si ce projet de décision pouvait recueillir l'unanimité des mandants, à ce moment-là, elle pouvait entrer en force, vous dire l'efficacité de la diète. On a quelque chose d'analogue actuellement, c'est la loterie à numéros. c'est un concordat intercantonal qui donc est le fruit de l'accord des 23 cantons. Alors, pour changer quelque chose là-dedans, je peux dire que ce n'est pas demain la veille, parce que il n'arrive pratiquement pas. Il s'agit de changer seulement une phrase pour avoir l'accord des 23 cantons. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus immuable que la Constitution. La loterie à numéro ou la loterie romande, tout ce que vous voulez. Donc, dès qu'il s'agit d'une modification constitutionnelle, il y a vote obligatoire. Cette modification peut venir ou bien de l'initiative des chambres elles-mêmes, ou bien être proposée par voie d'initiative par des 100 000 signatures dont je vous ai parlé. Mais pour qu'une modification constitutionnelle puisse être acceptée, il faut une double majorité, il faut à la fois la majorité des cantons et à la fois la majorité des votants. Autrement dit, un canton qui voit une initiative refusée à, je ne sais pas moi, 1000 voix d'écart, par exemple 200 000 contre 190 000, est un canton rejetant. Et alors il faut, pour qu'une initiative constitutionnelle soit acceptée, qu'il y ait cette double majorité acceptante et des cantons et des votants. S'il y a égalité de cantons, ça ne peut pas passer. Il faut que le verdict positif l'emporte. Et nous avons, par cette double majorité nécessaire, évité quelquefois des catastrophes, notamment il y a 4 ou 5 ans, quand la Confédération, sous la poussée centralisatrice, voulait s'emparer du domaine de l'école. Eh bien, il y a eu une majorité de votants pour l'accepter, mais il y a eu une majorité de cantons pour la refuser. Donc, référendum obligatoire en matière constitutionnelle, facultatif en matière de législation ordinaire. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. Donc les chambres se sont finalement mises d'accord pour une loi. Il y a à un certain moment la loi qui est publiée au recueil officiel, et à partir de cette publication, il y a un délai de 3 mois qui court, pendant lequel n'importe qui peut demander le référendum, mais il faut recueillir 50 000 signatures. Alors nous avons par exemple le nouveau droit matrimonial qui a été entériné par les chambres, après d'ailleurs de longs débats, et qui a été publié le 15 octobre dans le recueil officiel, et nous sommes en plein travail de récolte de signatures pour faire échouer ce droit catastrophique où on ne considère plus la famille comme étant une société, où on ne considère plus que des individus bardés de droits et d'égalité. Voilà, au plan de la Confédération, au plan des cantons, je fais plus succinctement, les trois pouvoirs également. Alors, chaque canton a ses propres particularités, son organisation est la sienne. L'exécutif, le législatif et le judiciaire relèvent de sa compétence. Je prends le canton du Valais. Le législatif, c'est le Grand Conseil, un Grand Conseil qui est composé de 130 membres, avec une large prépotence démocrate-chrétienne, 84 députés, 25 radicaux, 12 socialistes et les minorités pour le solde. Ensuite, un système unique au monde, alors, que nous avons, c'est qu'en même temps que nous nommons 130 députés, nous nommons 130 suppléants. Et quand un député est empêché, il envoie son suppléant, ou le suppléant de la commune voisine. Ça veut dire, quelquefois, qu'il y en a qui baillent aux corneilles dans la vénérable assemblée. D'ailleurs, il y a la salle des pas perdus, il devrait mettre une des mots perdus aussi. L'exécutif, c'est le Conseil d'État, composé de 5 membres. Alors, le législatif est élu au système proportionnel, l'exécutif est élu au système majoritaire, partout en Suisse, sauf dans deux cantons de Soug et Tessin, et puis un tribunal cantonal, qui est l'autorité judiciaire suprême au plan cantonal. Organisation politique, vous avez 13 districts, que représentent les 13 étoiles, 170 communes et 170 bourgeoisies. Le Valais connaît le référendum obligatoire, c'est-à-dire que toute loi, bien sûr la Constitution, mais toute loi, tout décret qui est de portée générale, et non seulement tout décret qui est de portée générale, mais toute dépense extraordinaire, supérieure à 1% de la dépense brute du compte financier de l'année écoulée, pratiquement 6 millions actuellement, doit être soumise à votation populaire. C'est-à-dire, on ne peut pas, aucune autorité en Valais ne peut décider, le Grand Conseil ne peut pas décider d'un crédit extraordinaire de 7 millions de francs sans le passer par la votation. Nous avons le droit d'initiative, le nombre de signatures à récolter est de 8 000. Le canton, en dessous du canton, le district, c'est à vrai dire quelque chose d'un peu mixte. Il y a un conseil de district qui est nommé pour 4 ans. Il est nommé par des délégués qui sont eux-mêmes désignés par le conseil communal à raison d'un délégué pour 300, comme le dit la loi, 300 âmes de population. C'est le district, le conseil de district qui, par exemple, assure la gestion de l'hôpital de district, ici à Martigny. Et puis alors, vous avez au niveau inférieur la commune, qui a aussi ses trois pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Le pouvoir exécutif, c'est un conseil communal de 3 à 15 membres. Le juge de commune et le tribunal de police n'insistent pas. Le législatif, c'est ce qu'on appelle l'assemblée primaire, c'est-à-dire la réunion de tous les citoyens, avec la possibilité pour les communes qui comptent plus de 700 habitants d'élire un conseil général, parce qu'il devient à Sion ou ailleurs difficile de réunir une assemblée primaire. Il n'y a pas de salle suffisamment grande, encore que l'abstention pourrait néanmoins faciliter les choses. Et au niveau communal, alors à côté de la commune, il y a ce que l'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est en principe, dans nos communes, c'est elle qui est propriétaire de toutes les forêts. Ce n'est pas la commune. La commune comprend, si on peut dire, tous les habitants de la commune. Et la bourgeoisie, c'est uniquement les bourgeois. Alors il y a une assemblée primaire, c'est ouverte à tous les habitants, mais il y a parallèlement une assemblée bourgeoisiale, ouverte aux seuls bourgeois. Et ils vont discuter de l'exploitation des forêts, de l'attribution des, éventuellement s'ils ont des vignes. Certaines bourgeoisies, par exemple, ont encore pour coutume aux jeunes mariés de remettre une vigne en location pendant 20 ou 30 ans pour leur faciliter, si on peut dire, le départ dans la vigne. Alors, nous avons bien sûr périodiquement des élections et des votations. Les élections communales auront lieu le 2 décembre cette année, premier dimanche de décembre. Nous aurons l'an prochain, au mois de mars, des élections cantonales pour renouveler le Conseil d'État et le Grand Conseil, et nous avons eu l'automne passé, octobre 83, les votations pour la désignation, la composition des chambres fédérales. Et puis nous avons alors 3 ou 4 fois par année des paquets de lois à voter, 3, 4, 5. Vous imaginez que tous les citoyens éclairés qui passent leur soirée à, non pas à la télévision, mais à étudier studieusement les textes de loi. En fait, c'est, en définitive, vous recevez un coup de téléphone et comment est-ce qu'il faut voter? Oui, 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 non. Et puis le nouvelliste qui est beaucoup plus pratique, il reproduit le bulletin de vote, puis il écrit oui, non, oui. Là, c'est la démocratie applique. Au plan fédéral, les grands projets qui nous attendent sont l'adhésion à l'ONU. J'espère qu'elle sera repoussée. Le nouveau droit matrimonial dont je vous ai parlé. Et puis l'initiative du droit à la vie. Et nous aurons au mois de décembre une assurance maternité. C'est une initiative de gauche qui prévoit le congé maternité de quelques 9 semaines. Et puis qui ensuite, après ce congé de maternité, prévoit ce que l'on appelle un congé parental, c'est-à-dire qui peut être pris par le mari ou par la femme, de 9 mois. Parce que c'est une façon de lutter contre la dénatalité. En résumé, si je vous disais au début que ce mot du baron de Coubertin, ben vous voyez, il y a une constitution au plan fédéral, mais il y a 26 constitutions cantonales. Et on a un code de civil suisse, mais depuis 1912 seulement, mais on a 26 lois d'application. Vous ne trouverez pas dans le code civil à quelle hauteur vous pouvez planter les haies, à quelle distance les arbres, etc. Ça diffère selon les cantons, c'est donc réservé à la législation cantonale. Un code pénal, nous l'avons depuis 1942 seulement, mais nous avons 26 lois d'application cantonale. Nous avons 26 lois sur l'instruction publique. Il n'y a d'ailleurs que des universités cantonales, mis à part les 2 écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne. On a 26 lois fiscales. On n'a pas d'impôt fédéral direct, mis à part l'impôt de défense nationale. Les impôts sont cantonaux et communaux, avec d'ailleurs des impôts communaux plus forts. Quand vous payez votre bordereau d'impôt, vous payez plus en principe à la commune qu'à l'État. Il faut bien que la commune ait véritablement des ressources pour pouvoir faire les travaux qui dépendent d'elle. On a en définitive 26 lois sur le notariat, 26 lois sur le barreau, enfin c'est tout multiplié par 26, de sorte que quand on fait des études de droit, on sort licencié d'une université suisse, mais après on rentre dans son canton, et puis on étudie le droit administratif, les lois fiscales, et il y a 26 codes de procédure pénale, il y a 26 codes de procédure civile. Ça devient une espèce de jungle dans laquelle il vaut mieux pas s'immiscer, de sorte que pratiquement, on pratique dans son canton, dont on reçoit d'ailleurs le diplôme. Voilà un peu une espèce de radiographie qui, par-delà les chairs, ont essayé de vous montrer le squelette de nos institutions politiques. La démocratie, qui est un régime parmi d'autres, valable autant que les autres, ou pas plus que les autres, comme on veut. Une démocratie, d'ailleurs, qui est acceptable dans la mesure où elle correspond à ce que nous pouvons accepter d'un régime politique, c'est-à-dire qu'il proclame que tout pouvoir vient de Dieu, et qu'il proclame qu'au-dessus des lois et des gouvernements, il y a précisément les lois divines et la loi naturelle. Mais vous le savez, ce concept de démocratie qui était celui de l'ancienne Suisse est battu en brèche par ce que nous appelons le démocratisme, qui, sous l'inspiration des philosophes et de ceux qu'on a eu le culot d'appeler les Lumières, faisait du souverain populaire la seule source du droit et, en définitive, de la loi, la seule source également de tout devoir et de tout droit. Et je pourrais vous citer, je vous ai parlé tout à l'heure d'un conseiller fédéral que j'ai connu et qui a exercé pendant plus de 30 ans, a été conseiller fédéral, qui était un homme très cultivé. D'ailleurs, quand il y avait les délibérations aux chambres, il venait toujours avec un auteur grec ou latin qu'il lisait dans le texte, et certains qui intervenaient pouvaient deviner à l'assiduité que le conseiller fédéral mettait à lire le texte le degré d'intérêt que portait son intervention. Et alors, c'est lui qui, dans une conférence qu'il avait faite, avait dit ceci en parlant du meilleur régime. Il n'y a pas de régime qui ait une valeur absolue et qui puisse revendiquer à lui seul le droit à l'existence. Dire que la démocratie est la forme politique la meilleure et la plus parfaite est une affirmation qui ne saurait se justifier ni du point de vue de l'expérience, ni du point de vue philosophique. Nous reconnaissons qu'à toutes les périodes de l'histoire, les systèmes de gouvernement se sont façonnés selon les données rationnelles et morales du temps. Il n'en est pas moins vrai qu'ils ont toujours été fort variés et différents les uns des autres. C'est que dans tous les pays et chez tous les peuples, les conditions naturelles et l'évolution historique exercent des influences particulières qui déterminent pour le peuple et le pays en question un régime spécial correspondant aux conditions géographiques ou psychologiques. La meilleure forme politique pour une nation est celle qui se trouve en harmonie avec son histoire, sa tradition, sa mentalité, sa mission propre au milieu des peuples et des patries. Et plus loin, il permettra encore de citer ce texte de lui, déplorant le mal dont souffrent nos sociétés modernes, et plus particulièrement le matérialisme. Il écrit : « Le matérialisme, nous ne pourrons le vaincre et le bannir des âmes que si nous orientons de nouveau la vie publique et privée vers sa fin et son idéal supérieur. La démocratie, pour être saine et viable, présuppose comme condition essentielle que le peuple soit croyant, religieux. Les vérités surnaturelles seules auront raison du matérialisme. Aussi, presque tous les mouvements politiques qui, de nos jours, tentent de réformer l'État doivent insister avec raison sur la régénération chrétienne du corps social. Il est vrai que, examinés de plus près, certains de ces jeunes mouvements dont il parlait à ce moment-là, préconise un renouveau chrétien si vague et si mêlé d'individualisme que les reconstructions à réaliser n'en tireront pas grand avantage. C'est notre conviction profonde et absolue que nous ne sauverons la démocratie que si nous parvenons à refaire une mentalité chrétienne et à ramener le peuple dans sa vie privée et dans sa vie publique à la croyance en la divinité du Christ et en la vie éternelle. Le matérialisme est la philosophie de ceux qui ne voient que la terre. On ne peut le vaincre qu'en tournant le regard des hommes et de la société vers les valeurs éternelles. » Voilà, je pense terminer par cette citation, cet exposé.